Parlons sport sur RTVFM.
RTVFM.
Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et permettez-moi au nom de toute l'équipe des sports de RTVFM de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2020 qui a déjà commencé depuis quelques temps maintenant, mais c'est la première fois qu'on se reparle depuis le début de l'année. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à tous mes meilleurs vœux. Je vais saluer ma coéquipière du lundi soir. Salut Valérie.
Salut Jean-Yves. Je présente aussi mes meilleurs vœux à tous les auditeurs, puis à toi aussi, hein, surtout.
Ben écoute, merci. De même, Valérie. Un petit bonsoir à notre tech préféré, Théo.
Salut Jean-Yves, et puis bonne année à toi.
Ben écoute, bonne année à toi aussi.
Merci Théo.
J'espère qu'on va avoir des bonnes musiques, des bonnes jingles qui vont arriver pile au bon moment.
Oui, 2019, c'est bon, c'est oublié. 2020, c'est une nouvelle année.
Oh, trop bon. Une émission un petit peu spéciale ce soir, Valérie, puisque on n'aura pas d'invité. On n'a pas d'invité. Et puis on s'en fout. On a un gros programme malgré tout qui nous attend. On va parler des résultats du week-end. Il y en a eu plein de résultats. Les saisons.
RTV Sport, les résultats du week-end.
Ça commence bien.
Il n'avait pas dit qu'il ne ferait pas de conneries en 2020, ce type. Bon, allez, merci Théo, merci bien pour celle-là. Donc, nos programmes de la soirée. Les résultats, on a plein de résultats. Les saisons, les divers championnats ont repris. Donc on fera un large tour d'horizon des résultats, du rugby à 13, du basket, du hand et plein d'autres sports aussi. Et puis la deuxième partie de l'émission sera consacrée un petit peu à revenir sur ce qui a fait 2019, sur ce qui risque de faire 2020 aussi. On essaiera de faire un petit tour d'horizon des événements qui nous ont marqué, des champions qu'on avait envie de mettre à l'honneur localement ou pas localement, d'ailleurs peu importe, on ne s'interdit rien. On aura notre ami Jérôme Alonso qui viendra nous parler de ce qu'il est convenu d'appeler une désillusion.
Ben oui, ça arrive.
La défaite de Carpentras du côté de Realmont, on va en reparler dans quelques minutes.
En général, on a le droit à un match par an.
Ouais, c'était celui-là. En tout cas, et puis on aura peut-être Laurent Manditelli. Je lui ai laissé un message. Laurent Manditelli, il fait partie des organisateurs de Avignon Vélo Passion. On l'a vu l'an dernier.
BMX de Pernes.
Voilà. On l'a vu l'an dernier dans les studios. Je lui ai laissé un message. S'il nous entend, Laurent, il peut nous appeler quand il a envie. On lui fera une petite place. On va aussi parler de ce bel événement qui est organisé par le comité de Vaucluse de cyclisme, me semble-t-il. Mais en fait, si Laurent nous rappelle, on verra ça avec lui.
Une grosse manifestation en vue.
Énorme, énorme. Donc Valérie, on va parler des résultats, mais peut-être que Théo va nous remettre le jingle ce coup-ci au bon moment. On va voir Théo.
RTV Sport, les résultats du week-end.
C'est une machine ce type, en fait. Dès que tu lui demandes quelque chose, il le fait. D'ailleurs, il le fait même quand tu lui demandes pas. Donc,
voilà.
Merci.
Allez, je vais commencer avec le basket, avec l'ABC de Carpentras. En U15, garçon, Carpentras se déplaçait, recevait l'île sur la Sorgue, 74-53. En U20 départemental, Carpentras recevait Montfavet. Là, Carpentras s'est incliné 45-60. En U18, fille Château-Renard, donc Carpentras 39-46. En U20, Carpentras recevait Saint-Rémy. Carpentras s'est imposé 70-65. En senior fille, Carpentras recevait Tarascon. Là, Carpentras s'est incliné sur le score de 49-64. En senior garçon, Carpentras recevait Rognonias. Et là, Carpentras, là encore, s'est incliné 67-72. Enfin, en prénational fille, Carpentras se déplaçait à Venelle, et Carpentras s'est incliné 49-68. Il y avait aussi du basket avec la Nationale 2 à Sorgue qui se déplaçait au SMUC et qui l'emportait sur le score de 80-72.
Première victoire à l'extérieur de Sorgue cette année en Nationale 2.
C'est pas facile. Hein. Sorgue est 10e au classement général avec 18 points. Alors ça, je voulais faire un petit point là-dessus. Justement, à 1 point du 6e, à 4 points du 3e, à 5 points du 2e et 6 points du 1er, qui est Golf Juan, mais aussi à 1 point du dernier, qui est Ravoir-sur-Chal. C'est-à-dire que C'est un championnat, mais alors où ils sont tous les uns près des autres. C'est-à-dire un match et tout peut basculer.
Ouais, c'est typiquement un championnat de basket. On a l'habitude de ce genre de situation dans les championnats de basket. C'était déjà un petit peu pareil lorsque Sorgue évoluait en National 1 l'an dernier et les saisons d'avant. Mais oui, effectivement, c'est assez dense comme championnat. Toutes les équipes se tiennent. Il suffit que tu gagnes un match et puis tu te retrouves presque en position de qualifiable. Bon, pour Sorgue, la qualification, on va oublier. Mais en tout cas, si tu gagnes une paire de matchs, tu te retrouves bien. Si tu perds un match, tu te retrouves mal, voire très mal.
Parce qu'un point du dernier quand même.
Ouais, absolument, absolument. C'est un petit peu le propre de ces championnats de basket. Va savoir pourquoi ça se passe comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est toujours une constante dans ces championnats de basket où tu peux pas te rater en fait.
Non, là, Sorgue doit vraiment gagner tous ses matchs. Hein. Ce qui sera difficile au vu de la première, premier temps.
Ce qui sera difficile au vu de l'état du club en général. On a des infos concernant ce club et ça se passe pas bien à tous les étages, aussi bien au niveau des joueurs qu'au niveau du staff. Voilà, l'équipe qui a repris le club après la fin de règne de Monsieur Bellucci fait un travail horrible. Ils sont pas bons. Et en plus de ça, ils refusent de venir s'expliquer. Donc on leur lance encore une petite invitation. Si messieurs, dames du Sorgue Basket Club, vous voulez venir nous parler, venez. En attendant, on va considérer que vous êtes pas bons. Voilà. Ce sera mon coup de gueule du soir un petit peu, mais j'en reposerai encore un autre tout à l'heure.
Il y avait du handball aussi avec le Mazan Ventoux contre Venessin. Donc Mazan au niveau national 2 donc recevait Montpellier. Et là, superbe match de Mazan qui l'a emporté 35-20. Mazan là aussi pointe à la 5e place avec 23 points, à 3 points des 2e, hein, Toulon, et 2 points des 3e et 4e. Donc là aussi c'est assez serré. Donc Mazan s'il nous fait ce qu'il a fait l'année dernière, c'est-à-dire une deuxième partie de saison magnifique, on peut espérer une deuxième place, parce que je pense que Antibes ou la garde est quand même difficile d'accès.
Non, la garde c'est une équipe qui descend de National 1, donc là forcément ça va être très compliqué. Ils veulent repartir très vite à l'étage au-dessus, mais effectivement les filles de Mazan, eh bien, elles font un bon championnat, un petit peu en deçà de ce qu'elles avaient espéré compte tenu de la fin de saison dernière où elles avaient survolé le truc. Il y a eu quelques matchs en début de saison qui auraient pu mieux tourner, on va dire. La chance qui accompagnait cette équipe de Mazan la saison dernière semble les avoir un petit peu délaissés. Des matchs qu'elles auraient pas dû gagner l'an dernier, les ont gagnés. Ben cette année, c'est un petit peu le contraire. Voilà, des matchs qu'elles pouvaient gagner, ça a tourné du mauvais côté. En tout cas, elles ont toujours leur chance dans ce championnat. J'ai sollicité Pascal Bassé pour qu'il vienne nous parler, pas que des filles de Mazan. Il viendra très vite nous parler de l'ensemble du basket féminin et du hand. Et Pascal a toujours un œil assez aiguisé sur ce qui fait le sport. On le fera venir très vite pour parler d'autres choses que de la Nationale 2.
Il y avait chez les moins de 17 ans élite PACA, donc Mazan recevait Toulon. Et là, Mazan s'est incliné malheureusement 25-26, un tout petit point. Dommage, mais bon, c'est ça les matchs. Hein. En moins de 15 ans élite PACA, il y avait Sorgue recevait cette fois-ci le Mazan. Et Sorgue s'est imposé 26-22. Et pourtant, à la mi-temps, Mazan gagnait 14-10, hein. Donc un revirement de situation, des malchances, peut-être aussi des mauvais placements, enfin bref, voilà. On va passer aussi au rugby à 13.
Allez, pourquoi on passe au rugby à 13, vas-y, je t'en prie.
Voilà, il y avait la Coupe Lord Derby, c'était la 16e de finale.
La Coupe de Lord Derby, c'est la Coupe de France. Oui, absolument, voilà. Valérie.
Il y avait Panier-Entraigues, 30-32. Donc Entraigues de justesse l'a emporté, difficilement, mais l'a emporté.
Superbe résultat, parce que si vous n'êtes jamais allé jouer à Pamiers, c'est un truc, c'est en haut des montagnes, là, c'est dans les Pyrénées. Voilà, il faut y aller là-bas, il faut se peler déjà le voyage, il faut se peler le temps parce qu'aller jouer à Pamiers en ce moment, c'est loin d'être une partie de plaisir. Superbe résultat des joueurs de Julien Scaramuza et du jeune Rue qui ont fait le boulot et qui se qualifient surtout pour le tour suivant. C'est bravo les gars.
Et je laisse quand même entrevoir un match difficile pour Carpentras la prochaine fois contre Entraigues, hein. Ça va être assez
le derby, il y a le derby qui arrive très vite, ça va être
chaud.
Ouais, ben entre une équipe de Carpentras, dans tous les cas, alors c'est toujours la même histoire avec Carpentras qui est allé perdre du côté de Réalmont, leader de la de l'élite 2. De, pardon, de la nationale 1, oui. C'est-à-dire du championnat juste en dessous de Carpentras, ouais. Réellement, qui a des grosses ambitions, qui veut monter très vite en élite 2, ouais. D'accord. Ils sont tombés dans une espèce de guet-apens. On aura sûrement Jérôme Alonso qui reviendra avec nous
sur ce
match-là. Donc, on va pas en parler, mais voilà, Carpentras a été défait du côté de Réalmont. Ouais. Il y avait aussi le SOA.
Voilà, qui a perdu malheureusement face à Palau, sur les terres de Palau,
ouais.
50-28.
Ouais, il y a une explication à ça, le SOA qui était parti du côté de Palau. Alors, le SOA fait une grosse saison en championnat, ils sont seconds aujourd'hui, ils ont fait un énorme début de championnat, et la Coupe de France faisait pas partie des objectifs du SOA. Ils sont allés avec une équipe un petit peu remaniée,
faisant confiance à des gamins.
Malheureusement, ils ont eu un blessé à la personne de Jack Payne, le demi d'ouverture. Il s'est sérieusement fait mal à la clavicule. Il est sorti. Et du coup, ça a complètement déséquilibré l'équipe. Ça se tenait à la mi-temps, il y avait quelques points d'écart. Et voilà, du côté de Palau. Palau, par contre, qui est en championnat, est complètement à la traîne. Ben, ils se disent que s'ils peuvent faire un joli parcours en coupe, ils vont se le faire. Ils sont entraînés, Palau, par un certain Olivier Lima qui a joué longtemps au Dragon. Voilà, c'est une grosse équipe dans tous les cas, c'est jamais facile d'aller jouer là-bas.
De toute façon, on regarde Carpentras, c'est vrai, contre des équipes inférieures où ils pêchent. Ça lui est arrivé contre Lyon,
ouais,
l'année dernière,
ouais, bien sûr,
cette année contre Réalmont.
Bien sûr, après il faut pas se tromper, la Coupe de France, surtout la Lord Derby, c'est la grosse Coupe de France, c'est-à-dire que ce soit Entraigue, Carpentras, même Avignon, il faut pas se gourer d'objectifs, c'est-à-dire l'objectif de Carpentras,
c'est
d'Entraigue et d'Avignon, c'est de bien figurer en championnat, c'est ce qui est
tout
important.
Ils sont deuxième actuellement, Carpentras, quand
ouais,
même.
Carpentras second, Entraigue troisième, je crois, Avignon est second de son propre championnat. À un moment, il faut pas se gourer d'objectifs, il faut savoir quel est ton objectif principal. Alors, bien sûr, on en parlera avec Jérôme. Je suis pas sûr que Jérôme ait beaucoup apprécié la défaite, mais en même temps, que tu perdes ce tour ou celui d'après, de toute façon, tu iras pas au bout. Voilà. C'est clair. Donc,
non, mais vaut mieux,
autant éviter de laisser de l'énergie dans ce championnat et dans cette coupe, quitte à, pour les équipes d'élite 2, comme Entraigue et Carpentras, à bien figurer dans la Coupe de France d'élite 2, pour lequel ils sont toujours en cours.
Voilà. Surtout qu'il y a un match dimanche, donc j'invite tous les auditeurs à aller à Carpentras,
ouais,
pour ce beau match.
Malheureusement, je serai absent, Valérie, mais...
Mais moi, j'irai.
Mais je t'en prie, va te régaler.
Voilà, allez, on commence avec le rugby à 15.
Ouais.
En fédéral 3, c'était la 12e journée, Lille-sur-la-Sorgue, Valréas, 27 partout.
Ouais, un résultat presque logique... Probablement un petit faux pas pour Lille qui pouvait faire un bon coup, qui pouvait sûrement espérer mieux de cette rencontre, mais de ce match. Voilà, c'est presque un mauvais résultat, on va dire, pour Lille, mais pourquoi pas. Voilà, ils sont. C'est deux équipes qui se tiennent, Lille 6e, Valréas 8e. Allez, voilà, c'était presque normal, quoi.
Il y a Draguignan aussi qui jouait les Angles.
Ah.
Et là, les Angles ont gagné 20-15.
Le match en question, les Angles qui se déplaçaient chez le second.
Pas facile,
la pression était un peu montée entre les deux clubs pendant la semaine. Et les Angles s'étaient promis d'aller faire un bon coup du côté de Draguignan. Ils l'ont fait de fort belle manière, puisqu'ils se sont imposés 15-20 en territoire varois. Là aussi, jamais très simple d'aller s'imposer du côté de Draguignan. C'est toujours un peu hostile comme accueil quand tu vas jouer là-bas. Et l'équipe d'Alain Sansiom, du président Sansiom et des entraîneurs Asté et Sansiom ont fait vraiment le job. Ça leur permet de prendre la première place de cette poule 3. Une fin de championnat dans cette poule 3. Dans cette poule 6 de Fédéral 3 qui va être
qui va être chaude.
Ouais, absolument.
Il y avait Uzès Cavaillon, 17-46 aussi.
Ouais, Uzès, ouais. Qui est dernier, ils sont complètement à l'agonie, Uzès. Très honnêtement, Valérie, tu sais, ils ont pas grand-chose à faire dans ce championnat, c'est un peu le maillon faible de cette poule, Uzès.
Ouais. Et là, nous avons Cavaillon qui est à la 4e place.
Ouais, Cavaillon qui a changé d'entraîneur, bizarrement, ils sont 4e. Ça pue un peu du côté de Cavaillon. Ils ont changé d'entraîneur. J'ai discuté hier avec Mike Gooding, qui était le préparateur physique de Cavaillon jusqu'à Noël. les entraîneurs ont été virés parce que le vestiaire n'était pas content, parce que si, parce que là. Bah, un peu incompréhensible d'avoir viré ces entraîneurs alors que tu es quatrième et que ça se passe plutôt pas mal quand même.
Dur pour eux. Voilà. Enfin, en fédéral.
Non, attends, Valérie, il y avait aussi un énorme match du côté de, du Ponté. C'était Le Ponté, Le Mourillon, enfin Avignon, Le Ponté, l'USAP, Le Mourillon, 33-12. Superbe résultat du Ponté. Et un petit coucou à mes copains, les entraîneurs du Ponté, Mika Mabillon et Ludo Zanini, qui font vraiment du très très bon boulot. Et ben voilà, ils sont troisième de ce championnat. Ça promet bientôt, très vite, un match entre les Angles et le Ponté, quelque chose de qu'il va pas falloir rater. Ça s'était pas très très bien passé au match aller. On risque d'assister à un truc sympa entre ces deux équipes très vite. Le Ponté qui nourrit quelques ambitions de monter en Fédéral 2, tout comme les Angles qui viennent de descendre. Les Angles aimeraient bien repartir en Fédéral 2.
Ils sont bien partis pour l'instant. Hein.
Ouais,
45
ouais, ouais.
points, ils sont quand même largement devant les Draguignan et Avignon.
Absolument, absolument.
6 points d'avance, 6 points, c'est dommage.
Voilà, le but maintenant pour les Avignonnais, enfin les Pontessiens, c'est de recoller juste derrière les Angles et de postuler aussi très vite à la montée. Un club qui est en train de bien se structurer, les présidents font un boulot de fou.
Voilà. Il y avait un match aussi en Fédéral 1, 13e journée, Château Renard, Bédarrid.
Le match.
20-23.
Le match.
Bédarrid l'a emporté 23-20.
Bédarrid de Châteauneuf, il faut dire Valérie, oui. C'est la SBC, mais oui, bien
moi,
sûr.
Moi, tu sais, j'ai tendance à raccourcir.
Ouais, mais.
Mazensor, je dis Mazensor.
Non, c'est la SBC, Béda Châteauneuf du Pape. J'y étais hier, bien sûr, puisque c'est mon club.
Oui, ça devait être un match tendu.
Un match de fou, avec une grosse domination de la SBC pendant les 20 premières minutes, et puis un accident, l'arrière de la SBC, Lucas Damignani qui se pète, fracture du péroné de la maléole avec...
pour quelques mois, quoi.
Avec la luxation, il s'est fait opérer aujourd'hui, d'ailleurs un petit... J'en profite pour lui faire un petit coucou à mon pote. Bon courage, Lulu. Le match qui tourne très vite, du coup. Les Châteaux Renardais qui remettent la main sur le match, qui rentrent au vestiaire devant. Et puis voilà, ça se délite un petit peu du côté de Château Renard. Et les joueurs de la SBC qui ont réussi à ne jamais lâcher prise dans ce match, ils ont été menés 20-8. Et puis essai de pénalité suite à une énorme domination en mêlée de la SBC. Et puis un drop d'Alex Renoux. Je sais pas comment il a tapé ce drop, même lui le sait pas d'ailleurs. Mais toujours est-il que ça offre la victoire à la SBC. Ça fait 10 ans que la SBC n'avait pas gagné au stade Coubertin. Voilà, une énorme fête hier soir et un superbe résultat. La SBC qui, avec ce match, consolide sa place et maintenant pour regarder en haut, on ne pourra plus être relégué et tout ce qui va arriver à partir de maintenant, c'est du bonus. On va être dans le ventre mou du championnat. Il n'est pas interdit de penser qu'on peut se qualifier, même si pour aller chercher hier Carqueiran et Bourgoin, ça va être compliqué. Tu sais, dans ce championnat, il y a les 5 premiers qui font un championnat qui n'est pas le nôtre en fait.
Oui, parce qu'il y a des grands écarts. Hein,
ouais, David Lelièvre nous l'avait expliqué lorsqu'il était venu, le président, mais Bourg-en-Bresse, Narbonne, Aubenas, Nice et Bourgoin, ils sont sur une autre planète.
Tout à fait, on le voit.
Hier, Carqueiran aussi, au niveau du budget, même si ça ne se voit pas trop au niveau des résultats. Mais bon, voilà, il faudra quand même aller se chercher ces équipes. Et puis, tu n'es pas à l'abri de faire un bon résultat, comme par exemple Nice ce week-end du côté de Narbonne, où ils sont allés s'imposer 22-16. Les autres résultats, si tu permets Valérie,
oui,
Bourg-en-Bresse est allé s'imposer à Castanet, qui est dernier, mais Bourg-en-Bresse s'est imposé 14-38. Aubenas, Vals contre Nîmes, 27-13. Les Nîmois qui sont un peu la déception de ce championnat, les attendaient un petit peu à une autre place. Bourgoin est allé mettre 40 points du côté de Mazamé. Là, ça pique beaucoup, mais encore une fois, Mazamé, ils sont avant-derniers de ce championnat. Château-Renard, on l'a dit, s'est incliné sur son terrain sur le score de 20-23. Et hier, Carqueiran serré. Hier, Carqueiran l'a emporté sur le score de 30-3 du côté de Serré, qui est dixième de cette poule, l'antépénultième. Tu as vu, il est beau ce mot. Tu as vu un peu. Les équipes qui intéressent, qui nous intéressent, c'est la SBC qui est septième de ce championnat avec 34 points. Et Nîmes qui est 8e avec 27 points et Château Renard qui commence à être un peu distancé.
22 points.
22 points, vrai, ouais,
ça commence à faire. Être difficile aussi pour lui. Hein.
Ouais, ça commence à être un peu compliqué pour Château Renard. Encore une fois, ils ne sont pas vraiment menacés parce que Mazamé et Castané sont vraiment en dehors du truc. Mais voilà, c'est un peu comme pour Château-Renard, mais c'est dans le ventre mou. Il y aura.
À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de changements au classement tel qu'il est. Je pense qu'on le retrouvera à la fin de l'année, on va dire, identique, parce que Bourg-en-Bresse, quand même, 58 points.
Ouais, alors ça va se jouer, tu sais, une victoire bonifiée, c'est 5 points.
Ouais.
Et une défaite pas bonifiée, c'est 0 points. Donc.
Aubenas ou Narbonne peut prétendre, mais sinon après ça va être difficile quand
Narbonne,
même.
Narbonne, c'est vraiment un truc au-dessus. C'est vraiment un truc au-dessus. Cette défaite contre Nice, là, les plombe vraiment, mais ils ont les structures, ils ont le budget pour remonter très vite en Pro D2. Nul doute que une de ces deux équipes, moi je dirais même pas Aubenas, mais ça va se jouer entre Narbonne et Bourg-en-Bresse pour la remonter.
Oui, je pense que ça ne changera pas tellement. Hein. Donc, classement ne
après,
changera pas.
Après, c'est très compliqué quand tu es en Fédéral 1 de monter en Pro D2 parce qu'il te faut passer par les phases finales, il te faut être finaliste du truc. Enfin, c'est,
c'est compliqué.
Ouais. Le parcours est encore très très long, bien sûr.
Ouais. Il y avait du football aussi.
Ça, je vais te le laisser.
Voilà, en Régional 1 féminine, Tarascon-Monteux, 3 partout. Monteux est deuxième, juste dernière Avignon. Avignon aussi a fait un match nul. Donc, premier Avignon, deuxième Monteux.
Ouais, Avignon qui avait un peu la tête ailleurs. Là, ils ont une grosse échéance très vite, les filles. Là,
et il y a aussi, pas seulement ça, c'est qu'il y a eu le décès d'une des joueuses.
Ouais,
le papa
ça.
Qui est décédé sur un terrain. Donc, ça a peut-être un peu plombé le match, on va dire.
Absolument.
Donc, en Régional 2 masculine, Saint-Didier-Pernes recevait Saint-Zacharie et 0 partout. En District 1, Carpentras recevait Gadal. 0 à 3, Carpentras est 8e au classement général, donc assez mal placé on va dire. En District 2, Pernes-Saint-Didier donc recevait Avignon 6 à 1, Saint-Didier-Pernes est 3e au classement général. Et enfin Monteux qui recevait Entraigues, 0 partout et Monteux est 7e. Voilà pour ce qui est au niveau résultats locaux on va
dire. Puisqu'on est dans le foot, Valérie, il y avait les gamins du Pontet, les juniors du Pontet qui jouent la coupe Gambardella. Qui avait bien figuré jusqu'à maintenant. Je crois qu'ils ont perdu ce week-end. J'ai pas le résultat sous les yeux, mais il me semble qu'ils ont perdu ce week-end. Ils ont fait un superbe parcours du côté du stade de Montbord au Pontet. Voilà, c'est dans le lot. Il y a un dénommé Mass qui est juste le fils de Fred Mass, l'entraîneur du Thor 13, et le frère de la petite Mass qui joue à Mazan.
Ah ben.
Au hand. Bon, ça ne saurait mentir.
Oui, c'est des sportifs dans la famille.
Absolument, Valérie.
Est-ce que tu veux qu'on parle de la Coupe d'Europe, la 5e journée?
Parlons-en, j'ai rien suivi, mais je te fais confiance.
Moi, j'ai vu le match hier, Racing Munster. C'était un match où au début Munster, gagnait largement, quoi. Hein, le Racing n'arrivait pas, et puis d'un coup,
C'est ça.
Et ça leur a permis de gagner 39 à 22. Il y avait aussi Leicester-Lyon. Bon, là, Lyon s'est fait éliminer 42 à 14.
Ouais.
Il y avait La Rochelle-Salle, 30 à 23. Donc, La Rochelle l'a emporté. Je parle que des équipes françaises.
Vas-y,
Clermont-Uster, 29 à 13 en poule 3. Donc le Racing,
Clermont qui va probablement se qualifier dans cette poule, c'est les deux premiers qui se qualifient.
Clermont et l'Uster se sont qualifiés. De l'autre côté en poule 4, donc il y avait le Racing et Sarrazins qui se sont qualifiés. En poule 5, eh ben c'est Toulouse qui l'a emporté face à Connacht 7 à 21. Donc Toulouse là aussi est qualifié avec Gloucester.
Gloucester, ouais.
Voilà, Gloucester.
Gloucester.
Voilà.
Yes.
Donc, et puis, bon, dans la poule 1, on l'a dit, c'est Northampton.
Northampton, yep.
Et Leinster qui l'ont emporté, qui sont qualifiés pour le tour suivant. Voilà.
L'art des choses qui se met à l'anglais, on aura tout vu, ça dégoûté ce soir.
Je suis part des choses, de cœur, mais je suis pas.
Pareil. Voilà. Pareil. Parisienne, c'est pareil.
Voilà. Oh, tu veux qu'on parle de quoi?
On pourrait parler de musique, si tu veux, si Théo est prêt à nous mettre une petite pause musicale avant d'accueillir notre ami Jérôme Alonso.
Everybody needs somebody.
Parlons Sport sur RTVFM.
Allez Théo, merci Théo, merci pour cette passe. On est de retour ici au studio. Avant de faire une partie fourre-tout, on va dire, Valérie, avec les coups, les flops, les mecs qu'on avait envie de saluer, les bons champions, etc., etc. Juste, je voulais donner un résultat de ce week-end. C'est nos copains du rugby à 13 fauteuils du SOA qui l'ont emporté sur le score de 55 à 36 face à Anglette.
Anglette, je connais bien.
Ouais, c'est Euskadi, je sais pas quoi,
Pyrénées,
quelque chose.
Là-bas, c'est là-bas, sur la côte basque.
Absolument, et superbe match de la bande.
C'est Avignon qui s'est déplacé à Anglette.
Non, ça se passait du côté d'Avignon. Mm-hmm. Juste pour dire aussi qu'il y a un Avignonnais qui fait partie des nominés.
Est-ce notre ami ?
Non, c'est pas notre ami, c'est Pastor, je crois, qui fait partie des nominés pour le titre de meilleur joueur du monde de rugby à 13 fauteuils. Il y a lui et il y a un Catalan aussi. Ça va se faire probablement entre un de ces deux joueurs. Mais voilà, le rugby à 13 fauteuils, on n'en parle pas assez, malheureusement.
On n'y pense pas assez,
mais voilà, ils font le job. Ils menaient samedi soir sur le score de 32 à 9 à la mi-temps. Ça a été un peu compliqué en début de seconde mi-temps. Ils ont failli être remontés à un moment. Les Basques étaient revenus à 3 ou 4 points d'écart. Et puis, la bande de Yann Verdi, Motz et compagnie ont remis la main sur le match et s'imposent sur le score de 55 à 36. Les Basques qui étaient premier ou deuxième, je crois, du championnat avant de se déplacer du côté d'Avignon. Superbe performance d'Avignon, ouais, qui s'est tapé ce match et bravo les copains.
Voilà. Moi, je voulais parler un peu de biathlon.
Et je t'en prie.
Avec Pourcade qui revient. Après quasiment une année, on va dire, de disette.
Hein. Des grands champions ne meurent jamais, Valérie.
Voilà. Il a gagné la Mastart hier, hein, et devient le nouveau leader de la Coupe du Monde. Il s'est largement imposé, on va dire, hier. Bon, il a été suivi par Desieux, puis bon, Desieux a malheureusement perdu la deuxième place au profit d'un Allemand, hein, qui lui était content de prendre justement cette victoire, mais en sprint, juste au niveau du sprint final. Donc voilà, donc bravo à Martin Fourcade, hein,
qu'on avait enterré trop vite et qu'on pensait cuit aux patates. Alors Martin Fourcade, il est moins bon qu'il n'a été par le passé, forcément, un petit peu rattrapé.
Il vieillit aussi, hein, voilà, donc
rattrapé par l'âge. Il tombe aussi sur un Norvégien dont le nom m'échappe.
Johannes Bø, mais qui n'était pas là en raison d'une paternité.
Absolument, donc, Johannes Bø a décidé de faire l'impasse sur trois courses là.
Mais il y avait son frère quand même.
Ouais, qui est un petit poil moins bon, mais qui.
Oui,
qui
mais enfin, il était actuel, il était le leader. Il a perdu son maillot justement au détriment de, au bénéfice, on va dire, de Fourcade. Hein. Mm-hmm. Et malheureusement, il a fait une très mauvaise course. Il a fini 25e sur 30e. Beaucoup de fautes de tir. Et bon, il n'était pas là. Même dans la course d'avant, il n'était pas là. Donc, c'est dommage aussi pour lui. Mais bon, nous, on est contents parce qu'un Français revient en numéro 1 mondial.
Ouais. Tant mieux parce que Fourcade, il mérite largement ce qu'il y arrive. Il n'a jamais lâché. Il a l'intelligence, Fourcade, de se dire que quand il a une mauvaise période, il lève un peu le pied, il se remet au boulot, il change de façon de skier, de tirer. Enfin bref, c'est un grand champion tout simplement.
Bon, enfin, on a quand même des Français qui sont très bons en biathlon, parce qu'il faut quand même. Ils ont été troisième récemment, avant-hier.
Ils ont fait la semaine dernière un podium où ils étaient trois Français sur les trois premières marches
aussi.
Du podium.
Ah oui, non, mais depuis le début de la saison, hein, puisqu'elle vient de reprendre la saison, ils ont fait quand même pas mal. À chaque fois, Fourcade était quand même parmi les cinq premiers. Hein. Il a fait deux podiums en individuel, et je crois qu'il a fait deux podiums lors des courses où ils sont plusieurs
les courses en équipe
il a fait plusieurs podiums, donc non, il revient comme il disait aussi, bon, il y a la forme qui revient, mais il y a aussi tout le matériel, hein.
Ouais.
Ils expliquaient à la télé que le fartage est quand même important. C'est et suivant le fartage que tu prends, en cours de course, tu peux avoir beaucoup de difficultés à lever à glisser.
Absolument, voilà. Absolument. Et c'est aussi pour ça que certaines nations sortent plus de bons résultats, parce qu'ils ont souvent un meilleur technicien, mais on retrouve ça dans toutes les disciplines du ski. On l'a vu en vitesse, c'est des mecs qui s'occupent des skis, alors je ne sais pas comment on les appelle ceux-là, mais ils sont très, très importants. Je crois, Valérie, que notre ami Jérôme est là.
Donc on va s'arrêter là. Jérôme ?
Oui. Ouais, salut Jérôme. Tu nous entends, salut.
Tous nos voeux, hein, tous nos voeux, Jérôme. On t'embrasse.
Merci, vous aussi.
Écoute, moi, Jérôme, je te serre la main et je te salue bien fort. Je vais pas t'embrasser devant tout le monde. Jérôme, raconte-nous, mais qu'est-ce qui s'est passé hier ? Alors, on rappelle pour les gens qui ne connaissent pas.
Quand tu respectes pas l'adversaire avant le coup d'envoi et que l'adversaire joue un match, le match de leur vie, il se passe ce qui s'est passé. C'était pas, on avait prévenu les joueurs que ça allait être un gros combat, puisque moi je me rappelle à l'époque, en tant que joueur, j'étais allé sur un match de coupe à Réalmont et on avait eu très dur pour s'imposer, et je savais comment ça allait se passer. Et malheureusement, les joueurs ont pris le match par-dessus la jambe, et voilà, ça donne le résultat qui est arrivé. Réellement, à pas voler sa victoire, bien au contraire. C'est même, je trouve que le score est flatteur pour nous, puisqu'on a été dominé, quasiment tout le match.
Mais pourtant, Jérôme, vous êtes prévenu. Réellement, ils sont premiers de National 1. Toi, tu connais trop le rugby pour pas être inquiété de ça avant, si.
Oui, non, mais comme je te dis, on avait prévenu les joueurs. Bon, après, moi j'avais fait un choix. De faire tourner mes joueurs cadres, et pour donner une temps de jeu justement à certains joueurs qui en manquaient. J'avais incorporé aussi le petit Jim Serrano qui a fait son premier match avec nous hier, qui justement a été, je pense, l'un des seuls à surnager au milieu du naufrage collectif qu'on a eu. Maintenant, voilà, je voulais lancer des joueurs. Je me suis aperçu que certains joueurs de mon groupe étaient limités tant au niveau rugbystique qu'au niveau mental, puisqu'on n'a pas eu de mental, on n'a pas eu les ressources pour aller s'imposer. Donc c'est plus ça qui me désole que la défaite, puisqu'on sait que la Coupe de France, voilà, on aurait fait un tour de plus, ça aurait été bien, mais voilà, on peut pas la gagner, donc c'était pas l'objectif numéro un de la saison. Mais de perdre comme on a perdu, ça m'a foutu un peu les boules. Ouais, j'étais mécontent, et je pense que demain à l'entraînement, ils vont s'en rendre compte.
Ça va piquer demain à l'entraînement,
Ça va piquer, parce qu'au rugby, si on plaque pas, on peut pas gagner, donc demain, on va plaquer beaucoup.
Mais surtout que dimanche, vous recevez l'Escure à Carpentras.
Ouais, bien sûr, oui, dimanche, on va recevoir l'Escure. Bon, après, maintenant, voilà, comme je dis, quand même, je me fais pas trop de soucis, puisque j'avais quand même 8 bonhommes qui jouaient pas, donc ça fait quasiment la moitié de l'équipe, oui. Donc je sais que dimanche, on aura une équipe qui sera beaucoup plus compétitive. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est que ça permettait d'avoir un peu de concurrence, c'est que certains joueurs qui avaient leur chance hier de concurrencer les titulaires, eh bien, ils m'ont prouvé qu'ils n'étaient pas encore au niveau de leurs collègues. Donc maintenant, eh bien, là, on arrive dans le sprint final, puisque c'est le dernier match aller, et après tout va s'enchaîner très vite. Donc maintenant, eh bien, on va imposer l'équipe type, et on va tourner avec l'équipe pour aller remporter le plus de matchs possible et atteindre nos objectifs.
C'est pas un peu ça, finalement, qui est le plus désolant, c'est de te dire que ces mecs que tu espères venir titiller les titulaires, là, eh bien, ils répondent jamais présents. Je me rappelle que tu m'as déjà tenu ce discours il y a quelques semaines, où tu me disais, eh bien, j'ai intégré une paire de joueurs et les mecs, ils font pas le job. Et voilà, c'est un problème de pas pouvoir imposer de concurrence dans un groupe comme le tien.
Ouais, c'est sûr que c'est problématique, puisqu'on s'aperçoit que la seule concurrence que peuvent avoir les joueurs dits soi-disant titulaires, c'est les juniors, puisque franchement, les juniors, depuis qu'on les incorpore, il n'y a aucun souci avec eux. Hier, je te dis, Jim Serrano, tout juste 17 ans, est rentré seconde ligne et pilier, il a fait le job, il était super. Le petit Sénat Yurka a fait 60 minutes au centre, il a été bien. Nathanaël à l'arrière a marqué les deux essais du match qui nous font un peu sortir moins ridicule que ce qu'on est sorti. Donc voilà, les jeunes sont bien. Après c'est vrai que les moins jeunes qui veulent soi-disant du temps de jeu, ben eux par contre voilà, ils veulent du temps de jeu, mais je pense qu'ils confondent PlayStation et le sport. sport réellement, puisqu'ils ne se donnent pas les moyens, déjà, un, aux entraînements de se donner les moyens d'arriver au niveau des autres. Et après, dans le comportement sur le terrain, quand ils y sont, ils ne sont pas du tout à la hauteur. Et hier, ça, ce qui m'a déçu, c'est ça, c'est qu'on n'a pas rendu hommage aux dirigeants qui font un travail de fou pour que le club vive. On n'a pas rendu hommage aux gens qui nous suivent. Hier, on a été en dessous de tout. Et voilà, c'est surtout la manière. La défaite, peu importe, c'est la manière dont on a perdu. On ne s'est pas battu et à aucun moment, on a eu un moment de révolte. Donc, moi, je pense que quand on est sportif, qu'on a un amour propre, il faut se révolter. Et là, j'ai vu personne se révolter. C'est ce qui me désole le plus.
La semaine prochaine, l'Escure à la maison.
Ouais.
Et du coup, avec un groupe.
Les 8 qui reviennent sur le terrain avec.
Voilà, oui. Bon, les 8, non, puisque je pense que Lionel Conta sera encore forfait. Donc oui, mais après, on va incorporer. Oui, ceux qui étaient au repos vont rentrer et apporter la dynamique qu'on n'a pas eue ce week-end pour battre cette équipe de l'Escure et finir la phase aller en seconde position.
Ouais, oui. D'ailleurs, une très belle place hein, quand même, avec des beaux matchs que l'on a vus aussi.
Oui, la place elle est belle, puisque bon, on, si on gagne, bien sûr, si on gagne, on sera second à un point, en sachant que le premier, il faudra qu'il se déplace chez tous les concurrents directs en phase de retour, donc c'est un petit avantage pour nous, mais voilà, nous, il faut plus qu'on se focalise sur nous que sur les autres, puisque je le dis depuis, je le savais un peu quand je jouais, et là, depuis que je suis revenu un peu aux commandes de l'équipe, je m'aperçois que notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes, et c'est ça qui est un peu compliqué à gérer.
Toujours. Jérôme, juste un dernier mot, cette poule d'élite 2, là, on a l'impression qu'elle se densifie un petit peu avec la montée en puissance d'équipes comme IE sur tête qui font un boulot monstrueux et qui deviennent un peu l'ogre de ce championnat là en ayant battu Pia dernièrement, en faisant un parcours de fou en coupe
et en trague aussi.
Et en trague, mais
qui monte en puissance.
Mais spécialement Lille, voilà, on a l'impression que eux voient déjà le bouclier du côté de chez Perkovic, là, c'est aussi ton sentiment?
C'est un peu la sensation de Pia l'an dernier, un peu de nous, que personne ne nous attendait. Et voilà, c'est une équipe qu'on n'attendait pas et qui fait de très bons résultats. Maintenant, après, voilà, encore, comme je dis, la saison est encore longue. Ils seront parmi les prétendants, mais après, c'est toujours pareil quand on verra quand on sera dans le Money Time. Mais c'est vrai que cette année, le championnat est beaucoup plus serré que la saison passée où il y avait 2-3 équipes qui ont survolé le championnat. Là, cette année, on s'aperçoit que les 6-7 premiers sont dans un mouchoir de poche et que ça va être très difficile pour aller chercher les deux premières places.
Écoute, Jérôme, on va te laisser. On va bien sûr continuer à suivre ça de très près. Si tu pouvais nous enregistrer ta séance d'entraînement et l'accueil que tu vas faire à tes joueurs mardi soir, ça nous arrangerait, ne serait-ce que
non,
pour le passer dans le bêtisier.
Non, on l'aura au téléphone lundi prochain, il nous en parlera.
Salut, va, pas de problème.
Salut, G, à bientôt, merci.
Et merci encore.
Merci pour ta disponibilité.
Merci.
Ciao, ciao.
À
merci.
Bientôt.
Au revoir. Ciao.
J'adore.
Oui.
J'adore les mots... raisonner de Jérôme. Ça
c'est un ancien joueur, donc il sait ce que c'est, et effectivement, il a raison. Quand on est sur un terrain, on doit tout mettre. Les tripes, elles doivent y aller. Moi, je sais que chaque fois que j'y allais, même si je ne gagnais pas, je donnais tout.
Je te le confirme. Le rugby, c'est l'histoire des 4 C. Je te le dirai hors antenne, tu comprendras. On passe à la suite, Valérie.
Je voulais parler un petit peu aussi du handball français. Les Bleus.
Aïe, aïe.
Qui, hier, j'ai regardé le match. Je sais pas, c'était pas l'équipe de France que j'ai l'habitude de voir.
Écoute, Valérie,
avait beaucoup de mal à rentrer dans la défense norvégienne, et c'est la Norvège qui l'a emporté 28-26.
Ouais, après.
Ils ont perdu, oui, mais le problème, c'est que ça faisait longtemps que c'était pas fait éliminer comme ça, dès le premier tour.
Ben oui, mais encore une fois, il y a. Hein. Tu sais,
je rappelle, c'est le tour pour l'Euro. Hein,
mais à un moment, on peut pas. Enfin, c'est impossible de dominer sur une période aussi longue. À un moment, tu as forcément un creux. Même s'il...
Enfin, il y a des jeunes qui arrivent là quand même.
Il y a des jeunes qui arrivent, mais si tu veux mon avis, pas sûr que Didier Dinard, qui a été un très très grand joueur, soit un entraîneur du niveau de Claude Onesta ou de Costantini juste avant.
Oui, il est bon quand même.
Eh ben oui, mais regarde, la preuve, c'est que depuis qu'il est à la tête, il y a les résultats.
Oui, mais
sont
bon, il y a des anciens qui sont partis, des jeunes qui reviennent, donc il faut leur laisser.
Alors,
c'est vrai que dans 6 mois, bah c'est alors, Tokyo, hein, c'est les Jeux.
Probablement, de... tu sais, j'ai souvenir d'il y a quelques années, lorsque Claude Onesta a pris la place de Costantini, tout le monde a tiré à boulet rouge sur Onesta en disant que c'était une pompe, en disant qu'il n'était pas de la taille. J'ai fait exprès de te dire, j'ai fait exprès de te parler de Dinard parce que on est dans le même schéma, on est dans le même truc. Le hand et dans le journal on marque qu'ils sont en crise, ils sont en crise de rien du tout.
Je pense pas qu'ils sont en crise.
Ils sont juste avec un Karabatic qui a bientôt 60 ans et avec.
Et encore, il a fait un beau match quand même. Bon, c'est oui, sûr qu'il y a eu moins de. Enfin, pour moi, ils ont été moins percutants que d'habitude.
Ça percute forcément moins. Ouais. Mais encore une fois, il faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, c'est les Jeux Olympiques ou la Coupe à Toto.
Mais c'est quand même dans 6 mois. Hein,
oui, c'est dans 6 mois.
Donc ils s'inquiètent un petit peu tous. Hein.
Mais non, t'inquiète pas.
Mais bon, ils aiment bien les challenges quand même.
Juste, moi, je voulais dire un mot pour le pilote moto portugais qui est décédé
il y a deux jours,
sur le Paris-Dakar. Ouais, 40 ans, Paolo Gonçalves qui
a fait une mauvaise chute malheureusement.
Et voilà, le mec avait fait une dizaine de Dakar, il n'y était jamais rien arrivé. C'était un guerrier, le type, il avait cassé son moteur sur la deuxième ou la troisième étape. Il arrive malgré tout à réparer, à repartir. Bon, voilà, la faute n'a pas de chance. C'est le 25e décès d'un pilote dans l'histoire de la course. On ne parlera pas des gens autour de la course, de Sabine Balavoine et compagnie. Mais voilà, c'est toujours un petit peu dommage de déplorer le décès d'un sportif, quel que soit le sport et quel que soit l'âge, la pratique, etc. Donc voilà.
Parce que quand même, ils font des pointes dans ce désert à 180-200 km/h quand même, en moto.
Forcément.
Donc ça part de l'arrière, ils doivent maîtriser, ils sont en équilibre continuellement sur leur moto.
Forcément, d'autant que Gonçalves, c'était pas une pompe, quoi. Il avait été deuxième en 2014-2015, je crois. Voilà,
c'est un triste accident.
La faute n'a pas de chance. Rappelle-toi, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, c'était 30 ans plutôt, il y avait Hubert Auriol qui était le vainqueur de l'année d'avant, qui avait eu une terrible chute et qui avait failli laisser les jambes. Voilà, quand on fait du sport mécanique, ben, il faut savoir que l'accident est partie prenante du truc et c'est dommage, mais c'est comme ça, malheureusement.
Ouais.
On passe à la suite.
Je voulais parler de l'escrime.
Ah
parce
bon
que les Françaises, elles se sont qualifiées, pour les JO de 2020.
Vas-y. D'accord.
Donc en fleurée. Donc voilà, c'est les fleurettistes françaises qui ont enfin leur billet pour aller aux JO.
Eh bien, en parlant de JO, on va aussi parler du volley, qui ont fait un tournoi pré-qualification olympique de fou, avec une finale notamment. D'anthologie des hommes de Tilly, je crois qu'il s'appelle l'entraîneur, qui ont réussi à se retrouver. Il y avait pareil, cette équipe de volley, des tensions, des machins. Il y a Mgapet là qui est un peu le Mbappé de l'équipe, mais qui pose problème. Les gens aiment pas trop ce qu'il dit, ce qu'il fait. Toujours est-il qu'il se retrouve lui toujours dans les moments difficiles. Il y a d'autres mecs qui ont refusé la sélection parce qu'il était là. Tilly a pas bronché, il a gardé son joueur, bien lui en a pris puisque c'est lui qui offre le.
Puis saute au bout.
Et ouais, ils sautent.
Non seulement ils sont très grands,
mais ça tape très fort. Valérie, si tu veux bien, on va utiliser les 15 dernières minutes à parler des sportifs qu'on a envie de mettre un petit peu à l'honneur. Notamment, il y a quelques Vauclusiens que moi j'ai envie de mettre à l'honneur. Au premier rang desquels notre ami Eddy Knight Slimani.
Tout à fait. Garçon charmant.
Le boxeur de Mazan qui a remporté son combat lors du World GVC Tour au mois de octobre, je crois, ou un truc comme ça. Eddy qui fait un début de carrière juste extraordinaire, qui enchaîne les victoires, qui aussi a remporté son combat au point lors de la Nuit des Champions. C'était pas facile, c'était un Russe, un tueur à gages, et malgré tout, eh ben il l'a fait. C'était mon premier coup de cœur entre guillemets. Non, Théo, ne balance pas le jingle. Eddy qui qui confirme qu'il est un très grand champion et qu'il va falloir compter sur lui pendant encore longtemps. Un petit peu dans l'esprit de ce qu'avait fait Bruce Caudron durant de longues années, il reprend le flambeau avec les mêmes valeurs, c'est-à-dire du travail et encore beaucoup de travail. Il y a énormément de cœur dans sa boxe, mais encore une fois, c'est l'école David Blanc un peu, où on n'a rien sans beaucoup de travail et beaucoup de sueur. Voilà, Eddie, il fait un parcours juste monstrueux.
Voilà, c'est un garçon que je te disais tout à l'heure, charmant et très humble. Une personnalité vraiment, on va dire, une bonne mentalité.
Ouais, absolument, un bon mec, mais voilà.
C'est... Un Bruce Caudron, c'est vrai, une mentalité
ouais,
à la Bruce
c'est Caudron. C'est un peu vrai, le même style. Un peu le même style. Un autre coup de cœur, c'est à notre ami Flo Bernardi.
Ah oui.
Le pilote qu'on connaît, qu'on a l'habitude de recevoir, bien sûr. Flo, bah, qui a fait une saison en championnat d'Europe. Avec des hauts et des bas, mais bon an mal an, une belle saison qui s'apprête à relever le défi d'une nouvelle campagne européenne. Là, en tout cas, on lui souhaite. Il est en train de beaucoup travailler pour réunir
l'argent nécessaire.
L'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Et puis voilà, au niveau des sportifs régionaux, je suis désolé si j'en oublie, mais il y a aussi un nageur du SOA dont le nom m'échappe, mais un des élèves de Jean-Michel Gruget qui fait du très très bon boulot. Voilà,
on a le copain du rugby quand même, à 13. Le rugby à 13
fauteuils. Oui, le rugby à 13 fauteuils, mais on en a parlé tout à l'heure, oui. Guillaume Motz et tous ses copains aussi, mais eux, Valérie, tu connais mon engagement pour ce sport, mais ces mecs-là, eux, on pourrait les mettre à l'honneur à peu près toutes les semaines, voire toutes les 10 minutes pour ce qu'ils font, pour l'implication qu'ils mettent à faire vivre ce sport, à faire vivre leur club, et surtout à gagner des titres, parce que tu fais bien de me lancer là-dessus, mais ils sont vainqueurs de la coupe en titre. Ils visent à nouveau un titre cette année. On espère que ils vont remporter au moins le championnat, puisque quelque part l'objectif c'est de ramener le bouclier à la maison. Ça serait bien, ça serait très très bien pour les amis du SO à fauteuil.
De toute façon, on ne parle pas assez justement de tous ces clubs, parce qu'il y a le hand fauteuil, il y a le basket fauteuil, enfin je veux dire, tous ces sports, on n'en parle pas beaucoup. Nous, on a la chance, c'est vrai, d'en parler régulièrement, enfin on a la chance, je sais pas, on a le...
En tout cas, on le fait,
parce qu'on pense, on a les copains et tout. On voit Mazan aussi, ça marche bien. Là, Carpentras, au niveau de l'ABC, donc basket, s'est mis aussi au basket fauteuil. Mm-hmm. On voit, ça prend, et tant mieux, parce que ça permet à des gens qui sont à mobilité réduite de pouvoir pratiquer des disciplines sportives, quelles qu'elles soient.
Et puis à titre perso, Valérie, pour avoir participé à la nuit du hand-fauteuil récemment, là, avec Sandy Thibault notamment. Non, Lionel, ce coup-ci...
Il n'était pas là.
Il nous avait lâché cet escroc. D'ailleurs, un petit bonsoir à notre poteau. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'il nous avait lâché comme... c'est pas bien ce qu'il a fait cette année, c'était dégueulasse, on s'en fout. mais à titre perso, ça te remet les idées en place, ça te remet une bonne dose d'humilité, parce que de l'extérieur, tu peux avoir l'impression que c'est super facile le sport fauteuil, et en fait non, t'en chies comme un russe, c'est des efforts physiques monstrueux, et ça c'est juste pour jouer au plus petit niveau qui soit. Pour s'amuser. Si tu veux faire du sport fauteuil à haut niveau, il faut énormément s'entraîner. C'est un effort physique monstrueux. C'est beaucoup de... Je conseille à tous les gens d'aller essayer, en tout cas, d'aller essayer de faire
tout
du...
Tout à fait. De toute façon, c'est ouvert aux gens, aux valides. Hein,
bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut aller essayer ça, parce que ça te remet les idées en place. Quand tu descends de ton fauteuil, déjà, t'es content d'avoir tes cannes. Elles sont, c'est tes jambes, elles sont à toi, elles fonctionnent. Eux, pour la plupart, non. Il y a des lourds handicaps, il y a des machins. Et quand toi, tu te plains parce que ta cheville grince un peu parce que tu vieillis, ouais. Eux, des chevilles, ils n'en ont plus, donc ça ne grince pas. Ouais. Mais malgré tout, ils en font au moins autant que toi. Voilà.
Ouais.
C'est un peu mon coup de cœur, ça.
Non, c'est vrai. Ouais, voilà. Mais bon, il n'y a pas que les fauteuils. parce qu'il y a tout le handi.
Oui, absolument. Alors,
il y a les aveugles, ça aussi. Quand tu vois des coureurs.
Justement,
aveugles,
à ce titre-là.
Cyclistes.
Ouais, à ce titre-là, on va aussi parler de la petite judoka de Carpentras, dont le nom m'échappe et je suis vraiment désolé.
Carpentras, c'était
D'Entraigues. L'élève de Philippe.
Oui, qui est venu, oui.
Qu'on a reçu dernièrement, d'ailleurs. Elle aussi, déficiente visuelle, avec des titres de champion de France, des participations aux championnats d'Europe.
Et on attend.
On la salue bien fort et on l'encourage bien fort parce qu'elle est en train de se battre pour arracher une qualif aux Jeux Olympiques, sachant qu'elle est blessée.
Elle a été opérée,
que là, elle est en pleine réathlétisation et rééducation. A priori, on espère qu'elle aura emmagasiné assez de points pour participer à ces Jeux. Elle en rêve depuis qu'elle est gamine.
C'est ce qu'on lui souhaite.
Ça serait vraiment une belle reconnaissance aussi pour elle. En tout cas,
qu'on la reçoive, d'ailleurs.
Eh bien, écoute, aussitôt que possible, on le fera. C'est une bonne idée, ça va. Mm-hmm.
Moi, je voulais parler de quelqu'un qu'on a un peu oublié, là, ces derniers temps. C'est Julien Alaphilippe.
Ouais, Julien Alaphilippe, ouais.
Qui, au Tour de France, a quand même gagné 14 victoires. Enfin, deux étapes et a porté le maillot jaune 14 jours.
Ouais, voilà, absolument, avec une paire de numéros sur le vélo pendant les étapes de montagne, notamment, où il a été juste monstrueux. Et Julien Alaphilippe, au-delà de ses 14 jours en jaune, parce qu'on retient ça, il a été élu meilleur coureur cycliste de l'année.
Oui, vélo d'or au niveau mondial et au niveau France.
Ouais, c'est ça.
Quand même, c'est bien. Hein.
L'UCI en a fait son meilleur, son cycliste de l'année. C'est l'équivalent du ballon d'or pour les footballeurs, quand on sait ce que ça représente. Et là, dans ces cas-là, on récompense pas nécessairement le meilleur mec sur 15 jours. On récompense le mec qui le plus complet, celui qui grimpe le mieux, qui roule le mieux, qui prend un maximum de points sur les classiques. C'est-à-dire que il est prêt là, dès maintenant, et sa saison va aller quasiment jusque
en octobre
ou novembre. C'est un boulot monstrueux. Il est un peu barjo, on aime bien ça. Enfin, moi en tout cas j'aime beaucoup. Il est moins raisonné que des coureurs comme Bardet par exemple, qui sont plus dans la réflexion et qui ont sûrement un peu plus de talent. Mais moi j'adore ces mecs un peu
calus. Il y va au culot.
Bien sûr.
Premier jour il disait ben non, je vais pas le garder, et puis il l'a gardé 14 jours.
Ouais, 14 jours, c'est
et ça, c'est fait quand même deux étapes.
Ça fait du bien de voir des sportifs comme ça là qui osent, qui s'en foutent un petit peu des consignes et qui s'y filent. Enfin, moi je suis assez fan de ce genre de sportifs.
Ouais, et on marque, il est le premier Français à recevoir cette distinction depuis 1995.
Ouais, Jalabert, non, semble-t-il.
Oui, c'est vieux ça. Hein.
Il me semble que c'était Jalabert. Ouais. Il faudrait
donc,
vérifier.
1995, mais... Donc 1995.
Ouais. Voilà. Ouais. Non. Autre sportif quoi, que j'avais envie moi de mettre à l'honneur, c'est Pinturo, skieur, qui est capable de tout, du meilleur, du pire. En ce moment, c'est un peu le pire. Enfin, d'une semaine sur l'autre, on ne sait jamais parce que.
Voilà, il peut terminer premier comme dixième, comme il l'a fait hier.
Mais en même temps, moi, je suis assez fan de ce mec-là parce que quoi qu'il arrive, il calcule pas. Quand ça va bien, il gagne. Quand ça va pas, et ben il finit loin. En tout cas, il est jamais deuxième ou troisième parce que il prend les risques qu'il faut prendre.
Enfin, il est deuxième au niveau mondial pour l'instant. Bon, il était premier au niveau de la descente, maintenant il est deuxième.
Ouais.
Donc il n'a rien n'est perdu. Hein. Il faut qu'il engrange des points quand même.
Moi, dans mon palmarès, Valérie, j'ai aussi mis le Stade Toulousain.
Ah oui.
Le rugbyman que je suis, forcément, avait envie de parler du Stade Toulousain. Et c'est là un peu la résurrection de ce club. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été champions. Ils ont une nouvelle génération, ils ont un nouveau président, des entraîneurs, pareil, qu'on a pris un peu pour des truffes là quand ils sont arrivés, et puis finalement, leur projet était cohérent. Ils ont une espèce d'extraterrestre qui s'appelle Colby, le Sudaf, qui est juste monstrueux et qui est complètement imprévisible. Et ce même Colby qui a fait misère à ses adversaires pendant la Coupe du Monde et qui a aussi permis à l'Afrique du Sud d'être championne du monde. Donc voilà, dans mon palmarès de cette année 2019, il y a l'Afrique du Sud pour leur victoire en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde, même si je suis pas super fan de l'Afrique du Sud, mais Ils ont au moins battu les Anglais, donc ça, ça mérite d'être souligné. Et puis voilà, Toulouse qui a fait un superbe championnat. Ouais, et puis,
mais c'est pas terminé.
Et puis voilà, qui a eu du mal en début de saison parce qu'ils avaient des internationaux qui étaient partis justement à la Coupe du Monde et qui n'étaient pas opérationnels. Et puis voilà, ça revient petit à petit. Ça va bien se passer, je pense qu'ils seront encore pas loin. Même si moi j'ai envie de mettre une pièce sur Toulon pour cette saison.
Et ils ont eu des matchs au début de saison pas terribles, Toulon. Hein. Ils ont
et bien sûr, on va oublier dans notre classement toujours un petit clin d'œil à notre ami Lionel, mais on va pas parler de Clermont parce qu'on s'en fout. Voilà, Lionel, si tu nous entends, ça aussi c'était pour
oui,
toi.
Voilà, on va passer Clermont.
Autre chose, Valérie.
Bah, c'est une championne. Ouais. C'est une judokate.
Vas-y, Clarisse. Je te laisse la dire.
Alors
la.
Je sais pas si je vais bien le dire. Clarisse Agbenyonou.
Ouais.
Voilà.
À tes souhaits.
4 fois championne du monde. Donc voilà, là aussi, c'est quand même pas mal. Elle a été élue d'ailleurs par tous les journalistes hein, de France. Une des meilleures.
Ouais, une des sportives de l'année, absolument. De l'année.
Donc Clarisse. Donc voilà, 4 fois championne du monde. Là, elle vient de perdre son dernier match, mais bon, c'est pas grave. Elle en a tellement fait qu'il faut qu'elle se repose un petit peu. Voilà. Pareil.
Voilà. Valérie, si tu veux bien, on va finir par mon coup de gueule, mon coup de gueule général. Mais celui-là, il y a un moment que j'avais envie de le faire et on va en profiter là, puisqu'on fait la rétro de l'année 2019. Mmh. Si Théo veut bien envoyer le jingle du coup de gueule.
RTV Sport, le coup de gueule ou le coup de cœur.
Ouais, je vais finir avec ça. Je vais finir avec. Les dirigeants du sport mondial et qui confondent sport, médiatisation, business, machin. L'exemple le plus frappant de ça, c'est les championnats du monde organisés à Doha pendant plein milieu de l'été. Doha, 50 degrés, un environnement complètement hostile.
Parlons sport sur.
Avec Théo qui, là aussi, je vais pousser un gros coup de gueule. Théo, tout à l'heure, ça va chier. Mm-hmm. Voilà, mon coup de gueule, c'est ça en fait, c'est que. Les dirigeants qui font du sport, enfin qui se targuent de vouloir promouvoir le sport, font juste n'importe quoi. On a organisé les championnats du monde d'athlé à Doha avec 50 degrés minimum.
Donc, en Arabie Saoudite, hein,
En Arabie Saoudite, qui est un pays qui est absolument pas. Théo, tu veux bien me laisser s'il te plaît une petite seconde. Voilà, qui est un pays où on est allé chercher de l'argent, mais c'était pas le but. Pour pouvoir avoir les épreuves, on n'a pas hésité à climatiser un stade de 80 000 places. Enfin, c'est juste du grand n'importe quoi.
Tout à fait. Et au-delà, on parle après de. Ouais.
Au-delà de ça, eh ben, pour les mêmes raisons, on va organiser la Coupe du Monde de foot au Qatar l'année prochaine. Enfin, dans 2 ans ou dans voilà, c'est dans 2 ans.
Il y a eu les championnats aussi du monde de hand.
Ouais. Enfin, on achète le sport. Le sport.
De toute façon, on le sait, hein, le Qatar, comme tu disais, tous ces pays d'Arabie, tout ça, donc achètent des équipes.
C'est ça. Et au-delà de ça, enfin voilà, c'est mon coup de gueule parce que on respecte, en faisant ça, on respecte ni le sport. Et ni les sportifs. Je pense notamment à ce marcheur français là, Johan Diniz, qui s'est entraîné par exemple pendant 1 an et qui se prend et Théo tu vas morfler et qui se prend un coup de chaud pendant l'épreuve. Enfin voilà, on fait du grand n'importe quoi juste pour 4 ronds. Voilà, c'est ça un peu mon coup de gueule. C'est j'aimerais que en 2020 on respecte un petit peu plus les sportifs et les équipes de sport. Il faut pas oublier que ce ne sont pas les dollars qui font le sport, ce sont les sportifs.
Eh oui.
On va finir avec ça, Valérie.
Voilà. Et on se dit à la semaine prochaine.
On va se dire à la semaine prochaine. Avant de vous quitter, on va vous souhaiter une bonne semaine. Et on va avertir Théo qui va prendre une rafale juste après qu'on a rendu l'antenne. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonne semaine.
Allez, bonne soirée.